liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
2 de l'April.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc et Manu.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'April, semaine 18, année 2012. Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui?
On a une petite revue de presse en termes d'articles au total, mais des jolis articles. On va parler de DRM, de Québec et transparence, les pirates qui sont un peu adolescents mais en politique, d'art libre dans le nord de la France, et pour finir, il y a tout un show sur Stallman, notre gourou adoré.
Cette chose n'existe pas.
Premier article, donc Numérama, c'est la journée mondiale contre les DRM, un article de Julien L.
Alors les DRM, tu te rappelles?
Et franchement, tu m'insultes, tu penses que je connais pas, je sais pas ce que c'est qu'un DRM, ça veut dire mesure technique de protection.
Pas mal, ouais, non, effectivement, donc introduit dans la loi DADVSI en 2006, une belle saloperie qu'on a tendance à oublier.
Et oui, parce que 2006, ça remonte à loin, et c'est à l'époque, la musique, notamment les MP3 qu'on pouvait acheter sur l'offre dite légale, oubliant qu'il y avait de la musique légale qu'on n'a pas nécessairement besoin d'acheter, on avait mis les DRM comme un truc absolument, ou MTP en français, comme un truc absolument incontournable, etc. Et à l'époque, l'article le signale, et ça fait plaisir, après il avait mené une action vraiment très importante sur le sujet, avait notamment fait une saisie au niveau du Conseil d'État et avait réussi à intégrer le droit pour des besoins d'interopérabilité de décompiler, c'est-à-dire en gros de contourner les DRM pour assurer l'interopérabilité avec des systèmes notamment du GNU Linux. Et bien entendu, ça casse un peu le principe du DRM. Et qui, de toute façon, en ce qui concerne la musique, s'était révélé comme une usine à gaz absolument abominable.
Oui, au final, la plupart des producteurs et des diffuseurs de musique enlèvent ce genre de saloperies techniques qui les embêtent plus qu'autre chose et qui pénalisent les bons clients. Donc c'était supposé être le contraire, pénaliser les pirates, les soi-disant pirates, mais finalement, ça s'est révélé comme une usine à gaz qui a tiré dans le mauvais sens, hein, c'est le moins qu'on puisse dire.
Alors en musique, parce qu'on en trouve aujourd'hui abondamment sur tout ce qui est vidéo à la demande et sur les consoles de jeux, et sur tout ce qui est livres électroniques avec les liseuses, donc le truc qui est très en pointe actuellement, très à la mode, tout ça c'est pourri de DRM, et tout est fait pour restreindre votre liberté. Alors aussi dans l'actualité, hein, il y a le truc avec VLC, le Blu-ray, on en a parlé il y a 15 jours, 3 semaines je crois.
Oui, hein, le fait que justement ils en appelaient à la Adopi pour faire fonctionner cette règle d'interopérabilité. Pouvoir lire des Blu-ray, c'est pas simple quand on utilise des logiciels libres. Au nom de cette règle d'interopérabilité, qu'est-ce qu'on fait? Donc je crois que c'est toujours dans les limbes et c'est pas sûr que ça en ressorte.
Ledevoir.com, Québec promet la transparence, un article de Fabien Déglise. Donc on reparle du Québec, ça revient très régulièrement. Et là, il s'agit d'un truc assez intéressant qui consiste à mettre en place un tableau de bord de l'état de santé des projets du gouvernement. C'est son nom, c'est un petit peu longuet, qui n'a rien à voir avec le ministre de la Défense. Voilà, donc un truc qui existe déjà aux États-Unis et qui permet, en gros, de faire un état des lieux des projets du gouvernement.
Oui, il explique assez bien, c'est pour faire de la supervision, mais pas de la supervision où vous avez des chefs de service qui vont regarder comment vous bossez. Non, c'est carrément beaucoup plus haut que ça. C'est, les chefs de service sont les citoyens qui pourront superviser en temps réel ou presque l'état d'avancée des différents projets. Donc il y a une petite liste des domaines qui seront utilisés, mis en place au début. Donc ça va concerner les secteurs de la santé, des transports, de la sécurité publique, éducation et ressources naturelles. Et ça a vocation à le faire sur tout ce que fait le gouvernement globalement. Donc c'est de l'open data dans ce qu'il y a de plus noble.
C'est plus que de l'open data puisque c'est pas une question de données, c'est vraiment une question de suivi de projet. Il y a un petit lien, on espère qu'on y viendra chez nous. Aujourd'hui l'open data c'est en pleine effervescence au niveau des collectivités locales. Chose importante évidemment, et la raison pour laquelle ça remonte dans la revue de presse, hein, c'est que bien sûr le système qui va permettre ce tableau de bord, hein, le système informatique, c'est du logiciel libre.
Oui, aux États-Unis ils l'ont mis en place. Donc c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un retour et ça a donné lieu à des réductions de coûts. Il semblerait que ce soit pas seulement sur les logiciels, mais sur vraiment tout l'impact de la gestion des projets. Peut-être que de savoir qu'on est suivi par ses co-citoyens, ça aide à travailler au mieux, donc c'est pas mal. Et tout ça est lié directement à un rapport qui vient de sortir il y a peu de jours à Québec, le rapport Henri-François Gautrin sur la gouvernance numérique. Donc il y a un petit peu de buzzword là-dedans, hein. On va faire du modernisme et tout ça, mais c'est pas grave parce que le résultat est vraiment à propos. Moi, j'apprécierais qu'ils réfléchissent à mettre ça en France, en Europe. C'est peut-être très très novateur et moderne, et dans le bon sens du terme.
Et ouais, c'est une grosse motivation parce qu'un élu, vraiment le truc qu'il aime pas, c'est passer pour un imbécile. Et donc à partir du moment où tout se voit, c'est très positif. Arte Journal, Les pirates en pleine adolescence politique, par Véronique Barondeau.
Alors les pirates, on le sait, ils ont un patch, un petit canari sur l'épaule, une jambe de bois, et surtout c'est qu'ils sont dans les institutions allemandes maintenant.
Un patch, tu veux dire qu'ils ont arrêté de fumer, c'est ça?
Un gros patch, hein, oui, qui empêche de voir bien, c'est clair, mais bon, là, on a plein de petits jeunes.
Alors, petit jeune, le leader a quand même 41 ans, il est quand même super vieux. Quand même très impressionnant, ça veut dire qu'en 6 ans, ce parti a désormais 25 000 adhérents, qui fait 9%, c'est la quatrième force politique du pays, donc c'est énorme. Il y a plein de petits trucs où ça coince un petit peu aux entournures, notamment ils sont accusés d'avoir des liens pas clairs avec l'extrême droite, et ils ont notamment un membre qu'ils essayent de virer, mais manifestement ils prennent mal, qui s'appelle Bodo Thiessen, et qui avait recommandé des lectures d'historiens négationnistes.
Et ça en Allemagne, a priori, ça la fout mal.
Ça passe pas toujours bien. Bon, mais en tout cas, ils sont là, ils ont fait une avancée fulgurante. Alors l'article note aussi qu'ils sont un peu faiblards sur les questions d'économie et ce genre de choses. Il y a des sujets sur la question de transport gratuit, dépénalisation de la drogue, revenu minimum d'existence, et il reste attaché à un truc très allemand qui est la règle d'or, qui dans la constitution allemande consistant à ne pas faire de déficit. La Voix du Nord, le MeLab, ou comment la technique et le partage créent l'art et parfois l'utile, par Marc Gros-Claude.
Me, qu'est-ce que ça veut dire, me?
Alors c'est machines électroniques à usage humaniste, je trouve ça très rigolo. J'aime beaucoup. En fait, c'est un machin à la croisée de l'art et du logiciel libre, et même du hardware libre. Un truc qui a été monté par Thierry Mbaye à Roubaix, qui se sert de Arduino, cette petite carte libre qu'on peut programmer et sur laquelle on peut brancher des capteurs, etc., pour faire des créations de sons et de choses comme ça.
Oui, ça a l'air de sortir vraiment du côté purement utilitariste. Traditionnellement, on parle de domotique quand on utilise les concepts de type Arduino. Mais là, non, il s'agit de faire des circuits qui vont générer du son, de la musique, des images. Je suis curieux de voir à quoi ça ressemble. Et puis, le gars qui est derrière ça, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été carrément embauché par Stinux, pas pour faire de l'art, a priori, mais pour faire plein de choses. C'est un emploi aidé pour travailler vraiment dans l'association, promeut les logiciels libres dans le Schnorr, hein, et donc carrément à Lille. Donc c'est pas mal, parce que le gars, il va pouvoir faire pas mal de choses liées au logiciel libre, à l'art, ce qui l'intéresse, mais aussi à répandre tout ça, à utiliser la liberté. Petit détail, on n'a pas parlé vraiment de la licence qui est utilisée pour la diffusion de ses œuvres. On va supposer que c'est une licence art libre ou équivalent, parce que ce serait dommage.
Et on fait coucou aux gens de Stinux, hein, qui montrent ici leur dynamisme incroyable. On va commencer maintenant le festival Stallman. Libération.fr, Stallman est le libre champion de Tunis, par Elodie Offray. Alors on parle de Tunisie super souvent dans la revue de presse, il y a toujours des trucs qui remontent. Là on voit Stallman sur le terrain et qui confirme qu'il y a beaucoup de dynamisme autour du logiciel libre là-bas, donc il est parti en conférence. On retrouve du Stallman tout craché, donc très attaché, et c'est normal, aux questions des principes et des libertés, qui constate qu'effectivement Tunisie, la communauté est très active et très réactive, et qu'ils ne se contentent pas de bidouiller de la technique. Ils ont mis en place un système de dénonciation de la corruption, on en avait parlé déjà. L'article cite également pas mal Fabrice Eppelboin, qui est un enseignant à Sciences Po, qui s'intéresse aux sciences politiques appliquées à Internet, et donc il y a pas mal de choses à dire sur la Tunisie, et donc il constate que Richard Stallman s'est rendu compte que son mouvement avait généré une garnison de jeunes complètement inspirés de ses valeurs. Stallman a créé toute une philosophie politique qui est derrière le printemps arabe. Pas de leader, pas d'ordre, pas de gestion de projet, mais une myriade d'initiatives. C'est la première traduction sur le terrain d'un mouvement en ligne. Bon, ceci dit, le projet GNU, je pense que il y a quand même un minimum d'organisation, et c'est pas pour rien que la cathédrale et le bazar tapent dessus.
Oui, bon, là après, il y a vraiment des questions de philosophie. Moi, j'aime bien cette idée que on arrive à reprendre les idées du libre, les idées du net, hein, et en les implémentant, en les mettant en place dans le monde réel, ça donne des révolutions comme celle de la Tunisie. Alors, on peut pas encore juger de ce que ça va donner à long terme, hein, ça forcément, mais en attendant, il y a vraiment eu un mouvement énorme où on veut pouvoir transmettre, on veut pouvoir échanger, voir, hein, les choses, et les modifier directement soi-même. C'est vraiment au cœur du truc. Et là, Stallman, il est vraiment accueilli un peu comme un gourou.
Nous devrons chercher une autre expression.
On peut passer à l'article suivant qui parle encore de cela. Hein, donc,
Webdo, Barcamp Insat, le show de Richard Stallman, par Emir Sfaxi. Donc l'Insat, c'est, je crois, soit une école, soit une association, je ne sais plus, toujours en Tunisie. Donc un article supplémentaire sur la venue de Stallman en Tunisie. Donc là, c'est un peu une collection d'anecdotes avec toute une série de citations. On sait que Stallman a le sens de la formule, donc c'est très rigolo.
Oui, mais justement, là, ça avait l'air d'être des facéties un peu bizarres qui ont fait que les gens qui étaient là étaient, l'ont considéré comme étant bizarre et imprévisible. Alors il aurait enlevé ses chaussures à l'intérieur du bâtiment, il serait ressorti les pieds nus, re-rentré les pieds nus. C'est un peu bizarre, mais il a fait rire, il a attiré du monde, il y avait 400 personnes qui étaient à sa conférence, et puis il l'a terminé comme il le termine dans certains cas, en faisant rire, et surtout en prenant son rôle de gourou assumé, mais d'une religion qui n'a pas de dieu.
Oui, on le voit donc sur une photo avec un vieux disque dur en guise d'auréole, c'est un truc qu'il fait souvent, c'est assez rigolo. Dans les citations qui sont remontées, il y en a une qu'on aime bien, Emmanuel, je sais que tu l'adores même, citation de Richard Stallman, « Je peux définir les logiciels libres en trois mots en français, liberté, égalité, fraternité. » Autre citation, « On ne doit pas s'incliner face à la propagande ennemie, pirater est une mauvaise chose, partager est une bonne chose. » C'était sur la question du piratage, puisque quand on lui demande ce qu'il pense du piratage, il dit que pirater des bateaux n'est pas une bonne chose. Concernant les films, il trouve que Premier Pirate des Caraïbes était pas mal. En gros, on ne pirate pas des œuvres numériques, selon Richard Stallman, on les partage, effectivement. Sur la question du téléphone mobile, en revanche, là, manifestement, l'auteur de l'article considère que Richard Stallman est un peu trop paranoïaque, puisque les téléphones portables sont des périphériques d'écoute pour lui, et c'est pas fou. Votre fournisseur de téléphone portable peut à tout moment écouter ce qui se passe autour de votre téléphone. Et donc, petite anecdote, pendant la conférence, quelqu'un a répondu à son téléphone portable, et là, Stallman a dit « Ils savent déjà que je suis là, ils savent que tu es là aussi, s'ils veulent m'entendre alors qu'ils viennent. En attendant, merci d'éteindre ton périphérique d'écoute. »
Oui, c'est un peu dur, hein, et puis c'est vrai qu'il se fait pas toujours des amis en disant ça, mais bon, il donne vraiment le fond de son opinion. Donc, il a continué, il a parlé aussi, il a bien descendu l'open source, parce que on le met pas toujours en avant. Lui, c'est le père du logiciel libre. Il y en a qui disent que c'est le père de l'open source, mais si c'était le cas, ce serait avec une insémination artificielle et du sperme volé, hein, ce qui serait pas particulièrement agréable pour lui, parce que il est pas du tout consentant. L'open source, c'est un autre mouvement, c'est une autre philosophie. C'est juste que elle a les mêmes racines, donc régulièrement dans les journaux, les articles, on parle d'open source parce que c'est le terme utilisé dans beaucoup de cas. C'est le terme dit pragmatique qui oublie l'éthique, mais qui est présent, hein, les entreprises l'adorent.
Oui.
Framablog, le danger des brevets logiciels par Richard Stallman, un article, enfin c'est une traduction, une retranscription d'une conférence faite par AK, donc un long article sur les brevets logiciels. On va pas rentrer dans le détail parce qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps. En revanche, c'est du Richard Stallman, donc c'est extrêmement pointu, très pertinent, etc. Donc si vous voulez avoir un point sur pourquoi les brevets sont un problème, etc. et être au taquet là-dessus, allez lire cet article très intéressant.
Oui, ça vous donnera l'impression d'être présent pendant une conférence de Stallman, ce qui est vraiment pas mal parce qu'il est très bon. Et donc il est détaillé, il va au fond des choses, mais c'est quand même très compréhensible. Il reste ouvert, c'est pas du vocabulaire incompréhensible du tout, c'est pas des choses si compliquées que ça. Allez jeter un œil, effectivement, ça va vous prendre un petit temps, hein, mais comme dans une conférence, et vous en sortez éclairé, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà, donc bon, si maintenant vous avez des doutes sur notre dévouement absolu et total à Richard Stallman, c'est qu'on n'en a pas fait assez. Sachez que Manu, son portrait tatoué sur la fesse droite, qu'on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
Salut.
Liberté parce que l'utilisateur est libre, il a le contrôle de son informatique. Égalité parce que personne n'a de pouvoir sur personne. Et fraternité parce que nous encourageons la coopération, la rediffusion des programmes.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Luc Fievet et Manuel Charpentier. La revue de presse de l'APRIL, c'est aussi dans Divergence Numérique, tous les jeudis à 12h30 et 17h30.